Alors, je suis très content de faire cette chronique parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Passe Montagne, qui a été tourné en 1978 par notre invité Jean-François Thévenin. Et vous savez ce que c'est, 78? C'est l'anniversaire des 10 ans de 68. Ah oui, pourquoi pas, maintenant on fait des 60, on veut bien parler de 78 comme l'anniversaire des 10 ans de 68. C'est une année terrible, il a fait très très froid toute l'année, il a neigé partout, il y a eu des tempêtes, dont une très grave qui a envoyé un pétrolier géant qui s'appelait l'Amoco Cadiz se fracasser contre les rochers inondant de pétrole la côte nord de la Bretagne. Je m'en souviens, j'ai fait des photos pour Libération dans cet endroit et c'était absolument ignoble. C'est la première fois que j'ai vu ça en vrai, l'homme détruit la nature. C'est aussi l'année où il y a deux papes qui meurent, où le baron Empin est enlevé et où Claude François est maladroit. Cette année-là, Mesrine s'évade, Aldo Moro est assassiné, le palace ouvre ses portes et Robert Forisson sa gueule. Aux législatives de mars 78, sur 28 millions de votes exprimés, il y en a 700 000 voix qui donnent presque 100 sièges de plus à la majorité conduite par Raymond Barre, majorité de Giscard d'Estaing, sur un total de 500 députés. C'est un très bon ratio pour la majorité sortante. Et 10 ans, donc, avant de tourner Un monde sans pitié en 1988, je vais au cinéma. Et je m'ennuie. Je m'ennuie beaucoup. Voilà. Les grands succès de cette année-là sont les deux films de Travolta, Grise et La fièvre du samedi soir. Il y a Les Bronzés et La cage aux folles. Bah, morale, plus ça change, plus c'est pareil. Bon, c'est vrai, je vais voir aussi L'angoisse du gardien de but au moment du penalty de Wim Wenders et Coco, le gorille qui parle de Barbet Schroeder. Mais bon, ces films, moi, à moi, ne me parlaient pas. Et puis un après-midi frigorifié, une année de froide tempête, je vous disais, je rentre dans un cinéma qui s'appelait Le Saint-Séverin, dans le quartier Saint-Michel, qui maintenant est une pizzeria, et je m'assois. Le film s'appelle Passe-Montagne. Je pense que c'est le mot montagne qui a dû m'attirer à cause du froid, à cause de la pluie, à cause de la neige, comme ça, une année terrible. On n'était pas beaucoup dans la salle, c'est vrai, mais dès le début, moi j'ai été tout seul. J'ai été tout seul avec le film. Ah, je vous raconte un peu. C'est Villeray, Jacques Villeray, tout jeune, tout gros, tout rond, tout mignon. Il est en panne sur l'autoroute. Il a une magnifique Mercedes 202 W124 et il ne veut pas la laisser à n'importe qui. Alors autant le problème du gardien de but ou du gorille ne me parlait pas, autant je comprenais le problème de ce personnage. Un type passe par là et lui propose de réparer. Ça tombe bien, lui, il a la même caisse, mais c'est en break. Il accroche la Mercedes de Jacques Villeray et il le sort de l'autoroute qui est la 6. Et on sent que c'est pas trop légal, parce que quand ils arrivent au grillage, il lui dit
« Éteignez les phares !»« Bah oui, mais on va où alors ?»«
Bah oui, on va où ? On va où ?» C'est ça le film, on va où ? Alors, parce qu'ensuite, le scénario est un peu inénarrable. Le film ne peut se réduire simplement à son histoire, mais c'est comme un western. C'est un long parcours pour que ces deux-là, Serge le garagiste, Jean-François Thévenin, et Georges l'ingénieur, Jacques Villeray, se rencontrent et chacun de leur côté passe la montagne. C'est Georges, d'ailleurs, qui, à un moment donné, raconte le truc.
Tu pars, tu t'approches. Et tu passes à côté, et puis c'est fini. Et puis après, 10 ans plus tard, tu te retrouves, tu te dis, ah bah oui, je suis passé très près. Un jour, j'ai failli faire l'asymptote, et puis voilà. Et puis c'est fini, puis c'est trop tard, puis tu peux jamais le refaire.
Passe-Montagne nous prend par la main, comme Serge prend celle de Georges et nous emmène dans ce Jura qui est aussi isolé que l'Oregon ou le bout de la Sibérie. Il nous fait passer une soirée où les chiens parlent et où les types enterrent leur vie de célibataire en dégoûtant les filles qu'ils vont épouser. Le film nous fait dormir dans une chambre humide, glaciale, où on lit, charmante soirée, une vieille série noire. Le film nous donne faim quand Villeray prépare la poêlée de champignons et nous donne envie de boire quand un gars arrive avec un thermos dont il sort un stalactite que Thévenin casse en deux morceaux qui glissent dans des verres de blanc.
La neige, le gel, ça vient. Ça vient.
Je peux pas arriver à croire que j'ai déjà 40 berges, moi. Ça a passé une vitesse folle.
La neige et les 40 ans dans le même plan. J'avais jamais vu ça avant. Je serais bien resté des semaines, moi, dans ce cinéma, à voir Passe-Montagne. Mais le film doit se terminer, comme tous les films. Et Villeray, il doit partir, comme tout le monde. Alors ils ont passé toute cette journée, toute cette nuit, pour localiser ce qu'on appelle la combe. La combe magique, d'où les grands rêves s'envoleront. Même s'il ne faut jamais s'arrêter de chercher, on sait très bien que la combe magique est introuvable. Ce que dit très bien Serge, Stevenin.
Et ta combe, elle est où?
Bah, sur l'autre carte.
Et voilà. Les grands films sont toujours sur l'autre carte. Et c'est à ça qu'on les reconnaît quand on passe montagne.
Hippolyte Girardot, merci.
Oh, bravo,
ouais. Ah ouais.
Hippolyte. Oh ah là ouais, là.
Quand même.
Ça, j'ai jamais entendu raconter ce film irracontable si bien en si peu de temps. Ah non, en plus, on est pile dedans.
Il est balèze, hein, le gars.